On va terminer ce matin la série que l'on a commencée il y a maintenant quelques semaines concernant la vie de l'apôtre Paul. On a travaillé sur ce verset de Galates qui s'affiche sur vos écrans, que vous connaissez bien maintenant. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. On a vu plusieurs choses dans la vie de l'apôtre Paul. Je ne vais pas revenir ce matin, ça serait trop long, puisque maintenant on arrive à la fin. On a vu l'importance d'avoir, dès le début, non pas une religion, mais une vraie révélation de Dieu. L'importance d'une révélation de Dieu. Deuxième chose que l'on avait vue, on avait vu dans le fait que Paul avait pu trouver un ami en la personne de Barnabas, l'importance d'avoir des amis lorsque l'on a une mission pour Dieu et l'importance de ne pas faire les choses seul. On a vu troisièmement que parfois la vie va me réserver des surprises que je ne comprends pas, des oppositions des fois qui viennent des hommes, mais également des fois où Dieu dit non. Et dans ces cas-là, combien il est important pour toi dans ta vie d'avoir une véritable communion avec Dieu. Parce que si un jour tu te retrouves comme l'apôtre Paul à Troas après plusieurs échecs, tu risques de claquer la porte à Dieu, de claquer la porte à l'église en disant « Dieu ne fait rien pour moi » alors qu'au contraire Dieu était en train de te conduire, mais différemment de ce que tu pensais. La semaine dernière, on a vu que une des difficultés les plus grandes dans la vie de l'apôtre Paul, c'est lui-même qui le dit, c'était la souffrance physique. Il a été lapidé, battu, 40 coups moins 1, naufrage, des jeûnes imposés, le froid, la faim, etc. La souffrance physique. Et je me suis dit, mais quel est ton secret, Paul? Quel est ton secret pour pouvoir endurer toutes ces souffrances? Et là, on le voit un jour dans une prison à Philippe, avec son ami Silas. Au lieu de pleurer, au lieu de crier, au lieu de dire, Dieu, pourquoi cela, Seigneur? Il est en train de chanter dans la nuit. Et on s'était quitté la semaine dernière en disant, c'est fou quand même. Lorsque un chrétien, un enfant de Dieu souffre et qu'il chante, ça fait trembler l'enfer, ça fait trembler les prisons. Qu'est-ce que Dieu entend de toi le soir lorsque tu es dans ta chambre? Est-ce qu'il entend ses louanges, les louanges de quelqu'un qui vit bien ou des louanges de quelqu'un qui souffre? Mais que la louange de l'Éternel soit toujours dans ma bouche. On termine ce matin. On va parler de l'Église. On tourne ensemble dans le livre des Actes. Paul et l'Église, l'importance de l'unité. Prenez votre Bible dans Actes 18. Actes 18. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre voyage, dans la vie. Je ne sais pas si votre voyage a été commencé il y a de cela de nombreuses années, votre voyage avec Dieu. En tout cas, l'apôtre Paul, lui, il en a fait trois grands voyages, des voyages missionnaires. Vous en rappelez un petit peu? Pas trop. Le premier voyage, il avait fait le sud de la Turquie, puis il était revenu. C'est un petit voyage. Le deuxième voyage, la carte va s'afficher sur vos écrans. Le deuxième voyage de l'apôtre Paul était un voyage, c'est là où on avait parlé d'ailleurs de cette fameuse conduite de Dieu au travers toute la Turquie pour arriver jusqu'en Macédoine. Et regardez, le retour, il était passé par la ville d'Éphèse. Alors on est dans Actes 18, on va lire ensemble le texte. Actes 18, Actes 18, verset 18 d'ailleurs. Donc il est à Corinthe où ça avait bien commencé, mais comme toujours, il y a toujours des oppositions après qui se lèvent contre la parole de Dieu. Après cet incident, Paul resta à Corinthe le temps qui lui parut nécessaire, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie en emmenant avec lui Priscille et Aquilas. Et avant de quitter le port de Sancré, c'est le grand port de Corinthe, hein, Corinthe, une des plus grandes villes de l'époque. Avant de quitter le port de Sancré, Paul se fit raser la tête car il avait fait un vœu. La Bible ne mentionne pas quel était le vœu qu'avait fait l'apôtre ce jour-là, mais en tout cas, il avait pris une décision pour Dieu. Ils arrivèrent à Éphèse. Alors Éphèse, on va le voir, on repasse de l'autre côté cette fois-ci, on repasse de la Grèce vers la Turquie. Éphèse, c'est au milieu de la côte turque, côté Europe. Et ils arrivèrent donc à Éphèse où Paul laissa ses compagnons. Quant à lui, il se rendit dans la synagogue pour discuter avec les Juifs. Ceux-ci l'invitèrent à prolonger son séjour, mais il refusa. En les quittant, il leur dit toutefois, je reviendrai vous voir une autre fois s'il plaît à Dieu. Amen. Amen. Premier point que je veux voir, c'est quelle est ton attitude dans l'Église? Est-ce que comment tu te positionnes vis-à-vis de l'Église? Quelle est ta vie d'Église? Si l'Église va bien, si l'Église progresse, si l'Église grandit, si l'Église tu reçois, si jamais tu peux donner, si tu es bien dans l'Église, mais également quelle est ta vie d'Église lorsque l'Église est en difficulté, lorsque tu te sens mise de côté, lorsque tu ne te sens pas intégré comme tu rêvais de l'être. Quel est ton attachement à l'Église? Et on va voir au travers de la vie de l'apôtre Paul comment l'apôtre Paul s'est attaché, comment Paul a pris soin de l'Église d'Éphèse dont il a été le pasteur. Et je voudrais que l'on puisse retirer des choses pour nos vies à nous. Premièrement, donc quand l'Église progresse, le tout premier problème, et je pense que ici vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire, mais le problème, c'est le problème du choix d'Église au départ. Parce que vous n'êtes pas né dans une église. Je veux dire, vous n'êtes pas né physiquement dans une église, vous êtes peut-être né spirituellement dans une église, mais est-ce que c'est parce que vous avez donné votre cœur à Dieu à cet endroit-là que vous devez y rester toute votre vie? Une autre question, pour ceux qui sont nés dans des conférences inter-églises, vous allez où du coup? Et on a tous ce problème, Seigneur, dans quelle église veux-tu que je m'attache? Parce que je crois que l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit ce verset très important, n'abandonnez pas vos assemblées, c'est parce qu'il est important que le jour où tu trouves un endroit où tu es nourri spirituellement, tu puisses t'y ancrer. L'apôtre Paul ne disait pas que tu ne peux pas déménager, un jour aller ailleurs, mais le temps que Dieu t'appelle quelque part, sois fidèle. Alors le problème, c'est est-ce que je dois aller à Éphèse? Est-ce que l'Éphèse, c'est là où Dieu m'appelle? Et c'est cette question que se pose l'apôtre Paul. Lorsque l'on lit dans le chapitre 18, verset 19, les gens lui disent, reste avec nous. Ça vous est déjà arrivé de passer dans une église où il y a quelqu'un qui vous dit, ah non, viens, viens là, t'es bien, reste avec nous. Peut-être c'est le pasteur qui dit, reste ici. Et toi, tu te dis, mais, je suis venu pour voir. Surtout qu'il y a un passé là-dedans. Vous connaissez bien l'apôtre Paul, j'espère maintenant, on a beaucoup travaillé dessus. Mais quand je vous dis Éphèse, peut-être, alors il y a peut-être il y a deux types de personnes qui vont vraiment connaître et comprendre ce que je dis là. C'est ceux qui sont très calés en géographie, mais à mon avis, vous êtes peu nombreux ce matin, surtout dans la géographie de la Turquie. Et deuxième type de personnes, ceux qui sont vraiment des pros de la Bible. Pourquoi l'apôtre Paul est gêné de rester à Éphèse? Pourquoi est-ce qu'il est gêné lorsqu'il visite cette ville qui est grande, hein, 250 000 habitants, mais toute petite église? Il se demande, Seigneur, est-ce que c'est là que tu m'appelles? Pourquoi il est gêné? Personne? Éphèse, c'est la ville capitale de la province d'Asie. Je vous donne un indice pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines. Je me rappelle d'un verset de Actes 16 où l'apôtre Paul dit, empêché par le Saint-Esprit d'aller dans la province d'Asie. Alors l'apôtre Paul se dit, une fois Dieu m'a dit non pour aller là. Alors est-ce que ce matin, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit de rester là où Dieu à l'époque ne voulait pas que je sois? Parce qu'il y a des temps dans la vie où des fois Dieu dit non. Alors la question que je dois me poser, et c'est pour ça que là, spirituellement, heureusement pour ceux qui ont déjà suivi l'approfondissement d'avant, vous arrivez à voir que ça vous demande d'être rempli du Saint-Esprit là. Mais Dieu m'a dit non une fois, est-ce que Dieu me dit non pour toujours dans cet endroit-là? Ou bien est-ce que c'était parce que ce n'était pas le temps de Dieu? Et la réponse dans la vie de l'apôtre Paul, c'est que ce n'était pas le temps pour lui à l'époque d'aller à Éphèse. Donc Dieu avait dit non. Quand il repasse par Éphèse, pourquoi il repasse par Éphèse? Histoire de mettre au défi Dieu. Je t'avais dit non. Mais Dieu, je vais essayer quand même. Non, non, c'est pas ça. Pourquoi il est obligé de repasser par Éphèse? Parce que Éphèse, la liaison Corinthe-Éphèse, c'est comme la liaison Calais-Douvres. Pour tous ceux qui ont pris le tunnel sous la Manche, vous savez que c'est l'endroit le plus court et le plus simple pour y aller. Donc en fait, sur sa route de Jérusalem, il est obligé, parce que toutes les liaisons de Méditerranée passent entre Corinthe et Éphèse pour rentrer vers Jérusalem. Donc c'est logique, il passe pas pour provoquer Dieu. Ce matin-là, il visite cette église parce que cette visite est sur son parcours. Maintenant, dès qu'on lui dit « reste », il se dit « ah, s'il plaît à Dieu, je reviendrai ». Est-ce que vous cherchez la volonté de Dieu dans le choix de votre église? C'est important. Seigneur, est-ce que c'est là que tu me veux? Dieu ne va pas forcément te le révéler en disant « oui, c'est là, avec écrit en grand, sur le mur au fond, avec ton prénom, c'est ici que tu dois être ». Non, 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 non. Simplement, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, où est-ce que je suis bien? Où est-ce que tu me nourris? Où est-ce que tu penses qu'avec mes enfants, on peut progresser avec toi? Il repartit d'Éphèse par la mer. Et regardez ce qui va se passer. Toujours dans cette église qui va progresser. Le début, ça ne va pas être terrible, hein, l'église d'Éphèse. En fait, je dirais même, l'apôtre Paul va laisser deux personnes. Il va laisser Priscille et Aquilas. Des fois, on en entend parler dans la Bible. Hein. C'est deux personnes très sérieuses. Priscille et Aquilas, c'était des juifs qui s'étaient convertis avec le ministère de l'apôtre Paul lorsqu'ils étaient à Corinthe. Et donc, ils ont pris le ferry en même temps que l'apôtre Paul, quoi, pour arriver à Éphèse. Mais alors que l'apôtre Paul, lui, continue vers Jérusalem, Priscille et Aquilas restent dans la petite église d'Éphèse. Ça devait pas être drôle, dis donc. Hein. Je sais pas s'ils avaient des enfants, mais quand vous vous retrouvez dans une église, la Bible va nous le dire un petit peu plus loin dans Actes 19, qu'ils étaient environ 12, c'est la mort, les réunions. Hein. Vous avez fait des réunions à 12 pendant quelques temps, c'est dur. Hein. La louange, c'est pas ça, hein. Il y a la sœur qui entonne un chœur, elle fait ce qu'elle peut. Il y a le frère qui doit jouer un tout petit peu du tam-tam quelque part dans un coin. Il n'a pas forcément un meilleur rythme que votre pasteur ici présent. Donc vous êtes en difficulté au début. Mais alors il y a quand même un bon prédicateur, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et l'expliquèrent plus précisément la voix de Dieu. Alors il y a un bon prédicateur qui vient. Alors vous voyez, Priscille et Aquilas se disent « c'est parti, on va avoir des bonnes réunions maintenant ». Oui, mais quelques temps plus tard, acte 19, verset 1er, pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, ça veut dire que le prédicateur, il est parti. Déception. Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Mais quel baptême avez-vous reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, » répondirent-ils. « Oui, » reprit Paul, « Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils devaient changer de vie. » Se convertir, hein. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Plouf dans l'eau, hein. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler en diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Pendant des années, il leur manquait une dimension dans leur vie d'église. Et je te pose cette question-là ce matin. Peut-être que tu te sens aussi un peu mis de côté et tu sens que ta vie dans ton église n'a pas la dimension spirituelle à laquelle tu pourrais prétendre. Est-ce que tu recherches à être rempli du Saint-Esprit? L'apôtre Paul, la première chose qu'il dit, vous aviez un bon prédicateur, c'est bien. Vous êtes certainement un groupe sérieux parce que vous êtes resté fidèle. Avec les années qui passent, vous êtes resté fidèle. Mais est-ce que vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes en feu pour Dieu? Est-ce que vous avez fait l'expérience de prophétiser, de parler en langue? Non, non. Nous, on a entendu parler du baptême de repentance. Et l'apôtre Paul, il se dit, waouh, vous avez manqué plein de choses, j'ai plein de choses à vous apprendre. Mais au lieu de leur faire la leçon, dire, vous êtes nuls. Moi, c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Dieu a des belles choses pour vous. Dieu ne veut pas que vous restiez tout simplement en vous disant « Oh, ben, je suis ma petite vie d'église tranquille. » Non, fonce avec Dieu. Dieu a plein de belles choses pour toi. Et c'est bien de prendre le baptême, et c'est super également d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit ce jour-là, je pense, quel jour de joie. Alors, nouvelle dimension spirituelle. Bravo Priscille et Aquilas. Bravo à vous tous qui avez été fidèles là où les autres se décourageaient. Parce qu'un jour vient où Dieu souffle sur votre église. Il y a un jour qui vient où Dieu vous amène, vous met au large spirituellement, où vous pouvez comme vivre à fond dans votre église. L'apôtre Paul donc est de retour, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Verset 8. Paul se rendit ensuite à la synagogue où pendant 3 mois il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre les auditeurs. Mais un certain nombre de juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Est-ce que vous savez comment c'est Éphèse ? Est-ce que c'est possible d'avoir une diapo qui montre la ville d'Éphèse ? On va regarder la ville d'Éphèse. Juste la diapo qui montre la ville, voilà. Ça, c'est ce qui reste d'Éphèse aujourd'hui. Éphèse, c'est une ville en marbre. Une ville en marbre. Toutes les vous voyez, à Paris, nous, on a des pavés. Eux, ils avaient du marbre. Et ne croyez pas que le marbre était produit à Éphèse, parce que dans la montagne d'en face, il y avait du marbre. Non. Les Éphésiens étaient tellement riches qu'ils importaient le marbre sur 400 kilomètres du centre de la Turquie pour en mettre dans leurs rues, pour en faire la chaussée. Éphèse, c'était un port extrêmement riche, extrêmement riche. J'y étais, moi, pour mon voyage de noces, un endroit merveilleux, mais alors une chaleur, c'est la folie. Hein. Visiter la ville d'Éphèse à partir de 9h du matin, c'est quasiment plus possible. Il faut visiter entre 7h et 9h, parce que après, vous pouvez cuire des œufs sur le marbre. Hein. Il fait chaud! Parce que c'est de la pierre, vous savez, la pierre emmagasine la chaleur. Tout est en marbre, c'est très très chaud. Regardez peut-être les petites rues, je ne sais pas s'il y a une image d'une petite rue à Éphèse. Voilà, vous voyez tout, c'est incroyable, hein, ils avaient de l'argent ces gens-là. Toutes les rues, c'est des petites rues étroites, les rues étaient en marbre, avec des colonnes de marbre de chaque côté. Et il nous est dit que l'apôtre Paul enseignait ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs, parce qu'au début il était dans la synagogue, puis après il a enseigné dans la maison d'un certain Tyrannus. Est-ce que c'est possible de voir une photo d'une maison là, à l'intérieur d'une maison, l'école de Tyrannus, je sais pas, merci pour la... Ouais, super, super. Voilà un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc il y avait toujours un patio hein, dans ces maisons-là, et l'apôtre Paul enseignait, mais dans une maison comme ça. Pourquoi il se mettait dans une maison ? C'était pour pouvoir enseigner pendant la journée. Nous, moi, je me plains ici à Créteil quand en été, malgré les ventilateurs, on a trop chaud. Je peux vous dire qu'à l'époque, pour écouter une prédication de l'apôtre Paul qui devait durer 2h30, pour que certains comme Eutychus aient le temps de s'endormir, ça devait être long. Et que vous êtes dans une maison comme ça, assez confiné, vous êtes dans la maison de certains Tyrannus, etc. Vous êtes tous assis, vous écoutez. Je comprends pourquoi ils n'étaient pas plus que 12. Hein. Il fallait en vouloir, vous voyez. Et pendant 2 ans, ça a duré, quoi. Combien de temps on a passé à l'ERF, nous, 113 ? 3 ans ? 4 ans ? 3 ans ? 3 ans ? 3 ou 4 ans, je ne sais plus. On est tellement bien maintenant ici. Mais je suis content quelque part d'avoir, pardonnez-moi l'expression, mais galéré dans un endroit. Je pense que si Dieu vous donne, je suis très heureux pour vous qui arrivez tout de suite ici, qui n'avez jamais connu, mais on a connu un endroit où on louait à l'heure, vous voyez ? Où chaque salle se payait à l'heure. Où les 10 mètres carrés valait 50 euros et tout coûtait cher, vous voyez. On était dans une logique où on prenait ce qu'il y avait. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il est dans l'école de Tyrannus, il faisait ça. Il devait se débrouiller, payer à l'heure, etc., pour donner des cours d'enseignement biblique pour ceux qui étaient motivés. Est-ce que vous auriez tenu, vous ? quand je pense que des fois, le dimanche matin, on a du mal à se lever, alors que c'est quand même sympa, je me dis, si jamais il faisait 40 degrés, pas de louange, juste le minimum, avec toi, 11 personnes de plus, 2 ans qu'ils ont duré, dis donc. Pendant 2 ans, ils se sont accrochés matin, midi, soir, je ne sais pas quand, mais ils s'accrochaient. Et Dieu voit ça. Et Dieu voit la fidélité quand tu sers le Seigneur et quand tu t'accroches à l'Église. Accroche-toi à l'Église, là où Dieu t'a placé. Accroche-toi. Sois fidèle. On va être ridicule des fois qu'on va arriver devant le ciel. Je ne dis pas que c'est plus vous faites des réunions, plus vous êtes spirituel. Mais je crois quand même qu'il y a un principe. On ressemble aux gens avec qui on passe du temps. Et plus tu passeras du temps avec des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, plus tu auras faim de Dieu et plus tu seras rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas le lieu qui va te bénir. C'est les personnes et l'Esprit qui est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu. Et je crois qu'à celui qui s'attache à l'Église, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « N'abandonnez pas ». Ah, on peut faire des impasses sur des réunions, on peut se dire « Oh, je suis fatigué, oh, il pleut aujourd'hui, il fait froid. » À Éphèse, ils se sont accrochés. Et je vais vous dire ce qui s'est passé pour ceux qui se sont accrochés. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. À force, quand même, il y a du monde qui passe. Dieu faisait des miracles extraordinaire par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades, et ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Dieu voit ta persévérance. Dieu voit, et il y a un moment, je sais que c'est pas le cas, il y a des moments dans l'Église où on voit pas de conversion, où on voit pas de miracle, où on dit « Seigneur, je viens à la réunion », presque par routine, on va dire les choses vraies. Vous allez le jeudi soir, alors vous êtes fatigué, vous dites « je vais y aller parce que c'est la maison de Dieu », mais vous allez, il ne va pas y avoir forcément un miracle ce jeudi soir-là. Mais vous vous accrochez, parce qu'un jour vient où Dieu visite son Église, et si tu n'es pas là, tu n'auras rien à raconter. Et tu auras simplement manqué le temps où Dieu te visitait. Et c'est le temps où Dieu a visité la ville d'Éphèse. Vous imaginez un mouchoir. Il passait, il prenait, il piquait. Il dit, je vais mettre ça à ma tati. Et la tati était guérie. Quelle présence de Dieu. Y a-t-il encore ici, en 2011, des hommes et des femmes qui sont attachés à l'Église, attachés à Dieu, qui disent, je ne quitterai pas tant que je n'ai pas été béni. Vous savez ce qui se passe quand il y a le réveil dans un lieu ? Les cœurs changent. Parce qu'il y a des miracles, les corps changent, mais il y a un autre miracle, les cœurs changent. Et vous savez, Éphèse, c'est une ville corrompue. C'est une ville qui était... Il y a une énorme bibliothèque qui a été faite par Celsius là-bas. C'est une magnifique bibliothèque, une des plus belles bibliothèques de l'Antiquité. Il ne reste malheureusement l'énorme façade, mais c'était un endroit incroyable. C'était une ville de science. Mais à l'époque, science allait avec science occulte. Et les livres d'astrologie, de magie, tout ça, ils connaissaient. On n'a rien inventé avec les cartes aujourd'hui. Et déjà, il y avait tout ce côté des sciences occultes qui existaient à Éphèse. Quand le Saint-Esprit rentre dans un cœur, les démons s'enfuient. Les démons ne peuvent pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu. Alors je lis, regardez au verset 19. Beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. La valeur estimée fut estimée à 50 000 pièces d'argent. 50 000 pièces d'argent. Vous voulez une conversion en euros ? J'ai fait le calcul hier, 1 million d'euros, valeur à l'époque. 1 million d'euros. Vous pouvez en brûler des livres pour 1 million d'euros quand même aujourd'hui. Si c'est des livres de poche à quelques euros, vous imaginez la quantité de livres qu'il faut. Parce que les gens disent, on était prêt à payer pour des doctrines de démons à qu'au bien plus forte raison, l'évangile est gratuit, on se laisse remplir du Saint-Esprit et on dégage ces choses-là qui nous ont gardés dans l'esclavage pendant des années. Les gens payaient, donnaient de leur argent pour pouvoir essayer de traficoter dans les sciences occultes alors que l'évangile était à leur porte et l'évangile était gratuit. Ils ont tout fait le nettoyage. Est-ce que tu as fait le nettoyage, toi, dans ta vie? Est-ce que tu as fait le nettoyage? Si jamais tu amènes un chrétien chez toi, quelqu'un qui aime Dieu, etc., comment c'est l'ambiance chez toi? Oh, il y a une grande liberté. Je ne dis pas que tu dois enlever tous tes posters quand tu avais 15 ans. Tu as le droit de garder certaines choses. Mais fais quand même le nettoyage. Qu'on ne trouve chez toi ni sorcellerie, ni magie, ni diseuse de bonne aventure. Toutes ces choses-là, c'est marqué dans la Bible. Faites le nettoyage. Faites le nettoyage. Parce qu'il est dit que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'esprit du monde. Il y en a un qui va partir. Si tu ne fais pas le nettoyage, regarde dans un couple. Combien de gens assez tordus essayent de cumuler deux compagnes? Au bout d'un moment, quand elle se rend compte qu'il y en a une autre, elle dit « Oh, oh, je pars, moi. » C'est pareil avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas flirter avec certaines choses et en même temps dire « Saint-Esprit, viens chez moi. » Il dit « Excuse-moi, le lit, il est déjà plein. Je ne peux pas venir là. C'est déjà occupé. Tu dis que tu m'aimes, mais je constate que tu aimes quelqu'un de plus que moi. Faisons le ménage dans nos vies. Faisons le ménage dans nos vies. » Vous savez pourquoi? Parce que j'arrive au deuxième et dernier point. Quand l'Église progresse, si tu ne fais pas le ménage, qu'est-ce que ça va être lorsque tu seras en difficulté? La deuxième partie de l'Église d'Éphèse, c'est un peu de difficulté. Il y a des ennemis qui viennent de l'extérieur. On regarde pour eux. C'est la fin du passage. C'est dans Acte 19, verset 23. À cette époque, la voix du Seigneur fut l'occasion de troubles sérieux à Éphèse. Un orfèvre nommé Démétrius, il fabriquait des petits temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans de sa corporation des gains considérables. Il les convoqua tous, ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie, et leur dit « Mes amis, vous savez bien que nous devons notre prospérité à l'exercice de notre métier. Or, vous voyez ce qui se passe, ou vous en entendez parler, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie, ce Paul a remué les foules, les grandes foules, il les a persuadés que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas de vrais dieux. Mais ce n'est pas seulement notre corporation qui risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Artémis lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Et toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse, et il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. À ces mots, les auditeurs devinrent furieux et se mirent à scander « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» Vous voulez regarder à quoi elle représente Artémis d'Éphèse? Alors, Artémis, c'est la déesse. Alors, c'est l'image, voilà. C'est celle-là, Artémis d'Éphèse. Là, on a retrouvé une pièce, une Artémis d'Éphèse en or. Ils avaient de l'argent, hein, c'est fou. C'était une déesse. Pour les dieux grecs, c'était une déesse de la chasse, mais pas à Éphèse. Éphèse avait été suffisamment riche pour pouvoir se permettre d'avoir une déesse un peu particulière. C'était une déesse de la prospérité. Et quand je dis antiquité et que je dis prospérité, tous ceux qui ont fait un tout petit peu d'histoire et d'archéologie, vous savez que à l'époque, prospérité va souvent avec fécondité, et fécondité et prostitution. C'était une grande ville de prostitution. C'est pour ça que vous voyez, elle a une poitrine, etc., ultra développée, multiple, etc., parce qu'il y avait en fait des dizaines et des dizaines de jeunes filles qui se prostituaient dans le temple de cette déesse. C'était une ville sale. Une ville sale. Regardez la taille du temple. C'est possible de montrer l'Artémision? 5 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. 5 fois plus grand que le temple que l'on visite aujourd'hui à Athènes, probablement le plus grand temple de l'Antiquité, l'Artémision. Immense, immense. au bord de la mer, c'est considéré comme une des merveilles du monde. On n'a plus de traces, mais dans tous les livres d'ouvrages, tous ceux qui l'ont vu disaient qu'il n'y a pas plus grand que ce temple. Pour ça qu'Alexandre le Grand, c'est là-dedans qu'il voulait être reconnu comme roi et seigneur, c'est l'Artémision d'Éphèse. C'était un temple incroyable. Juste pour vous montrer la moralité de cette ville, est-ce que c'est possible de montrer la dalle de marbre? Voilà, regardez ça. En fait, vous avez ici une image d'une dalle en marbre qui a été une photographie actuelle d'Éphèse. Hein. Parce que ça a tellement été gravé, vous voyez, le pied, c'est pour dire marcher par là. Et à côté du pied, donc en haut, vous avez une image d'une femme. Ça voulait dire prostitution, suivez les pas. C'était les panneaux indicateurs du péché là-bas. Alors, quand l'évangile bouleverse la ville, vous croyez que les démons y restent tranquilles? Alors, les livres de sorcellerie ont peut-être été brûlés. Mais vous savez, le diable a des légions, hein. On lui a mis chaos son côté force occulte. Il y a eu pour 1 million de livres brûlés. Mais le diable se déchaîne parce qu'il se dit, là, il y a des corps qui m'appartiennent. Il y a des femmes qui se prostituent. Il y a des temples en argent qui font de l'argent et qui permettent de financer ce culte-là. Il y a des gens qui se font de l'argent. Le matérialisme et l'impudicité se mettent ensemble pour détruire l'apôtre Paul. Tiens, juste une question. Où est-ce que l'apôtre Paul a écrit? Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités des dominations. C'est à qui qu'il a écrit ça? Aux Éphésiens. Regardez, on prend ensemble Éphésiens. Éphésiens 6, verset 12. Vous comprenez maintenant pourquoi il le dit? Éphésiens 6, 12. Je vais lire dans la version Semeur, vous connaissez peut-être une autre version. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et de tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Amen. Vous comprenez qu'il y a un combat spirituel derrière ou pas? Est-ce que vous comprenez que l'Église est attaquée? Ne croyez pas que l'Église est un lieu. L'Église, c'est là où Dieu se plaît être dans le cœur des chrétiens. Mais vous, on se rend pas compte, on finit dans notre train-train et puis on est tellement entouré de gens qui connaissent pas vraiment Dieu et qui rentrent pas dans cette dimension-là. Vos collègues ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais vous devriez, vous qui êtes conduits par l'Esprit de Dieu, savoir qu'il y a des choses aussi qui se passent dans les lieux célestes et qui font que vous avez pas envie d'aller à l'Église. Et qui font que lorsque vous allez à l'église et que quand il y a un péché qui est souligné par la parole, il y a un combat qui se passe. Réalisez bien que lorsque tu veux t'avancer pour Dieu, lorsque tu viens réveil, qu'il y a des miracles et qu'il y a des changements dans ton cœur, l'adversaire va utiliser ses dernières cartes. Et ses dernières cartes, il lui restait le domaine de la prostitution, il restait les gens qui aimaient l'argent, et il va utiliser ces cartes pour essayer de détruire l'apôtre Paul. Regardez la fin du texte. Ça va être chaud dans cette ville, ça va être dur, 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 dur pour l'apôtre Paul. On a quitté sur grande fut l'Artémis d'Éphèse. On revient dans Actes 19, verset 29. Bientôt, toute la ville fut en effervescence. On s'empara de Gaius, d'Aristarque, deux Macédoniens qui accompagnaient Paul dans son voyage et l'on se précipita en foule au théâtre. C'est possible de voir le théâtre? Je suis désolé, bravo les gars de la sono qui essayaient de switcher comme ça d'une image à l'autre. Alors le théâtre, 25 000 places, un des plus grands théâtres de l'Antiquité. Alors, on va garder l'image du théâtre. Moi, je vais vous lire pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Écoutez. Paul voulait se précipiter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques hauts fonctionnaires de la province qui le tenaient en amitié lui firent parvenir le message pour lui recommander de ne pas se rendre au théâtre. Ben, c'est trop tard, il y était. Hein. Cependant, l'assemblée se tenait dans la plus grande confusion. Les gens hurlaient et personne ne criait la même chose. La plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient venus. Des gens de la foule expliquaient l'affaire à un certain Alexandre, que des Juifs avaient poussé en avant. Alexandre fit un signe de la main qui voulait s'adresser au peuple pour prendre la défense de ses co-religionnaires. Mais dès qu'on eut appris qu'il était juif, tout le monde se mit à crier en chœur pendant près de 2 heures. « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» Ça devait être chaud, hein. À la fin, le secrétaire de la ville parvint à calmer le peuple. Alors, on remonte le théâtre, là, et peut-être la rue des Courettes. On va voir un petit peu. Donc, vous voyez encore une autre image. Il y a aussi une rue, la rue qui descend au théâtre. Bon, là, au fond, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, au milieu, au fond, c'est ce qu'on voit, la grande bibliothèque qui a été construite après, la bibliothèque de Celsus. Et donc, cette rue-là, imaginez, remplie de monde. Tout le monde en train de pousser, on traîne 2 Macédoniens, 2 chrétiens. On est en train de les traîner, on les amène au théâtre. On remonte le théâtre. Voilà, l'autre image du théâtre. Vous voyez, il y a une personne au milieu, là, hein, au fond. Imaginez que ce soit vous. Il y a nos deux frères et sœurs, deux frangins là, qui sont là. Et qui sont là. Ah. Et ils sont pris, il y a une foule en train de crier « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» Et il y a l'apôtre Paul, il veut parler. Et les copains lui disent « Tu te tais, dis rien. On va se faire massacrer. » là. Il y a 25 000 personnes en furie. Les gens sont venus, certains parce que ils veulent défendre leur métier et leur statut. Des gens qui veulent défendre la prostitution. Il y a des personnes qui ne savent même pas pourquoi ils sont venus, nous dit le texte. Mais tout le monde veut voir du spectacle et tout le monde veut qu'il y ait du sang. À ce moment-là, heureusement, il y a le secrétaire de la ville. En grec, c'est le prytané. D'ailleurs, on a retrouvé, c'est ça qui est fort, hein, on a retrouvé sa maison. C'est possible de montrer, c'est une des seules maisons qui reste intacte. Il y a 2 colonnes, enfin, ce qui reste intact. Il y a 2 colonnes qui restent intactes. Voilà, c'était l'entrée de la maison. C'était une haute autorité, le prytané. Il reste les 2 grandes colonnes d'origine. C'était à l'époque où l'apôtre Paul était là. C'est-à-dire qu'il est sorti de cette porte pour aller au théâtre, le prytané, le secrétaire de la ville. Et il a réussi à calmer le peuple. Hein. Éphésiens, dit-il, quel homme au monde ignore que notre cité, Éphèse, est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Cela est un fait incontestable. Il faut donc vous calmer, ne rien faire d'y réfléchir. Vous avez amené ici ces hommes et ils n'ont commis aucun sacrilège dans le temple et ils n'ont dit aucun mal de notre déesse. Si donc Démétrius, ils ont été sages quand même les chrétiens, vous voyez. On ne vous demande pas de casser les autres religions, hein. On se trompe de combat. Les chrétiens qui disent du mal des autres religions se trompent de combat. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Vous savez ce que Dieu vous demande? Parlez de votre Jésus. Parlez de votre relation avec Jésus. Faites pas des grands débats enflammés sur le pour ou contre de l'islam, le pour ou contre du judaïsme, le pour ou contre de l'hindouisme, le pour ou contre du bouddhisme. Oh, vous allez y passer du temps. Heureusement, l'apôtre Paul, ce qu'il avait fait, c'est « Au nom de Jésus, lève-toi et marche ». J'étais guéri, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si donc Démétrius et les artisans de sa corporation ont des griefs contre quelqu'un, ils n'ont qu'à porter plainte en bonne et due forme. Il y a des jours d'audience et des magistrats pour cela. Et si vous avez d'autres réclamations à formuler, on les examinera devant une assemblée légale. Mais nous risquons de nous faire accuser de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, car nous pourrions donner aucune raison pour expliquer cette manifestation. Là-dessus, il ordonna à l'assemblée de se disperser. Amène tout le monde chez lui. Ils ont eu chaud, les frères. Hein. Mais vous imaginez la pression qu'il y a eu? Vous imaginez la pression qu'il y a eu? Je ferme ma Bible. Et je voudrais que, ensemble, on puisse lire ce que Paul a écrit à Timothée, le pasteur de la ville d'Éphèse. Parce que Timothée a remplacé l'apôtre Paul à Éphèse. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Je pense que c'est une belle synthèse de la vie de l'apôtre Paul. Même au verset 6, il est dit, « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. » Verset 7. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen. Amen. On va fermer les yeux. On va demander à Dieu de nous permettre d'avoir cette solidité, cette persévérance. Alors que les yeux sont fermés, les têtes courbées. L'apôtre Paul t'écrit comme il a écrit aux Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car cet Esprit, Dieu vous a marqué par son sceau. Vous lui appartenez pour le jour de la délivrance finale. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable, patient, supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix et qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Est-ce que vous voulez être unis à Dieu, être unis à l'Église de Dieu? Apprends à aimer les autres. Aime l'Église dans laquelle Dieu t'a placé, que ce soit ici ou ailleurs. Aime les personnes. Supporte-les. Alléluia, Jésus. Notre Père, toi, tu nous vois en cet instant. Et on doit te demander pardon pour toutes les fois où on n'a pas contribué à l'unité des chrétiens. Seigneur, avant de voir l'unité dans le monde, l'unité commence dans notre famille, dans notre Église. Seigneur, on veut prier pour que vraiment tu puisses nous unir les uns les autres, qu'ensemble on s'attache à toi. Seigneur, que tu puisses fortifier celui ou celle qui a tendance à prendre ses distances avec l'Église. Que tu puisses renouveler les forces et interpeller celui qui, à cause de la fatigue du chemin, se retirait progressivement des réunions. Que tu puisses nous voir engagés avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons voir un réveil dans ce lieu. On veut voir des malades guéris. On veut voir des sourds qui entendent, des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent. Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, qu'on puisse être à notre place dans la prière et l'intercession. Le temps qu'il faut, les années qu'il faut, comme l'apôtre Paul, jusqu'à ce qu'il y ait une percée spirituelle dans la ville. Oh Seigneur, sois béni ce matin pour ton encouragement au nom de Jésus. Amen.